France Inter, 7h30. Le journal, Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la très longue garde à vue de Michel Platini, l'ancien patron de l'UEFA, interrogé toute la journée d'hier dans le cadre de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Y a-t-il eu corruption ? Pas du tout, répond l'ancienne légende du foot. Nous l'entendrons au début de journal. Facebook va-t-il devenir bientôt Facebank ? Le géant du net a lancé hier sa crypto-monnaie Libra qui pourrait faire du groupe un acteur financier incontournable. Dans l'actualité également, le président américain qui repart en campagne, candidat officiel depuis cette nuit pour les élections de 2020. Et puis on parlera des difficultés des consommateurs de drogue à se procurer des seringues stériles et de la vente aux enchères d'un revolver avec lequel Van Gogh pourrait s'être suicidé.
L'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui, je vous le rappelle, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier.
France Inter.
Michel Platini a-t-il, Sébastien, été influencé par l'Elysée pour attribuer le Mondial 2022 au Qatar ?
Eh bien, depuis près de 10 ans, cette décision de la FIFA ne laisse pas de surprendre. Sur les 24 membres du comité exécutif de l'époque, 16 ont été radiés ou font l'objet d'une enquête. Et parmi eux, Michel Platini, donc l'ancien vice-président de la Fédération internationale de football, a passé hier 16 heures en garde à vue dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire, interrogé sur ce choix controversé du Qatar, interrogé notamment sur un dîner secret à l'Elysée le 23 novembre 2010, auquel participaient le président Nicolas Sarkozy, le prince héritier du Qatar et Michel Platini. Michel Platini qui est finalement ressorti libre cette nuit sans aucune charge retenue contre lui vers 1h du matin. Les traits tirés mais plutôt confiants.
Ça a été long. Mais vu le nombre de questions, ça devait être que long, puisqu'on m'a quand même posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la FIFA. Donc il y a beaucoup de thématiques. Bon, j'ai répondu, voilà, tranquille à tout ça, en ne sachant pas pourquoi je suis là, quoi. Mais bon, il fallait répondre à toutes ces questions, je l'ai fait. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. C'est une affaire qui est vieille, vous la connaissez, on l'a expliqué. Je me suis toujours exprimé en pleine transparence dans tous les journaux. Et voilà, ben ça continue, ils font des enquêtes, ils cherchent.
Michel Platini, autre personne interrogée hier par la police, Sophie Dion, l'ex-conseillère sport de Nicolas Sarkozy et l'ex-secrétaire général de l'Elysée, Michel Guéant, tous les deux ressortis libres également.
Il est 7h33, Facebook, Sébastien, Facebook va-t-il devenir la plus grande banque du monde ?
Le réseau social le plus populaire de la planète avec ses 2,3 milliards d'utilisateurs a créé hier sa propre monnaie Libra, une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie qui devrait être disponible à partir de l'an prochain. Dans un premier temps, Libra sera libre d'utilisation pour favoriser son adoption par les internautes. Mais à terme, c'est une autre histoire. Facebook pourrait bien bouleverser le système financier mondial, Thibault Lefèvre.
L'objectif à court terme de Facebook consiste évidemment à gagner des marchés. Plus du tiers de la population mondiale est aujourd'hui sur le réseau social. Il faut maintenant convertir ses utilisateurs en clients. Fabrice Eppelboin est enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux.
La première cible de Facebook, la cible la plus facile, c'est les populations qui pour l'instant n'ont pas de compte bancaire. Il existe une quantité faramineuse d'individus, notamment en Afrique et dans bon nombre de zones en Asie, qui vont trouver dans Facebook une alternative pour leur permettre de s'inscrire dans une vie économique. Facebook, du fait qu'il s'appuie sur sa messagerie instantanée, a de très fortes chances de réussir.
Facebook pourrait donc très vite devenir la plus grande banque du monde en nombre de clients. Mais selon Fabrice Eppelboin, le géant du web ne veut pas s'arrêter là.
L'enjeu, c'est pas une seule banque, c'est l'inscription de Facebook dans cet univers des monnaies. Jusqu'ici, on n'avait pas d'entreprise dans le monde qui était capable de battre monnaie. C'est clairement un tournant, c'est clairement l'apparition de quelque chose qui n'est plus une entreprise. Le fait que cette entité puisse en plus avoir une telle puissance économique et financière et une telle irresponsabilité, si on en juge par son comportement passé, est très inquiétant.
Facebook n'est pas seul sur le créneau des nouveaux marchés bancaires. Les messageries Telegram et Signal, à une moindre échelle, envisagent de créer, elles aussi, leur propre crypto-monnaie.
Thibault Lefèvre, un autre géant américain dans l'aéronautique, celui-là a fait parler de lui hier au salon du Bourget. Boeing a annoncé une commande géante de 200 appareils 737 MAX, une surprise, car il s'agit du modèle pourtant cloué au sol solde depuis 3 mois après 2 crashs aériens en Indonésie et en Éthiopie. Une commande de 24 milliards de dollars signée du groupe IAG, regroupant notamment British Airways, Iberia et Vueling. Aux États-Unis encore, le Pentagone change encore de tête alors que la tension n'a jamais été aussi vive avec l'Iran. Le ministre de la Défense, Patrick Shanahan, a dû renoncer à son poste suite aux accusations mutuelles de violence conjugale entre lui et sa femme. Mark Esper a été nommé à sa place, mais seulement par intérim. Lui se voit bien en revanche rester 4 ans de plus à la tête des États-Unis. Donald Trump, candidat officiel à sa succession pour les élections présidentielles de 2020. Il a lancé sa campagne cette nuit à Orlando en Floride. On y revient dans le journal de 8h. À l'étranger encore, ces images qui ont fait le tour du monde. Angela Merkel tremblant de tout son corps pendant plusieurs minutes. C'était lors d'une cérémonie officielle à Berlin hier, aux côtés du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. Image impressionnante racontée par notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Il fait plus de 30 degrés sur le parvis de la chancellerie. Alors que l'hymne allemand retentit, Angela Merkel se met à trembler. Elle tente de rester les mains jointes, mais n'y parvient pas. Les spasmes se font de plus en plus forts. On la voit se pincer les lèvres. Ses jambes commencent à montrer des signes de faiblesse. Elle tente de garder l'équilibre et tient bon. Jusqu'au bout du protocole, son hôte ukrainien semble à peine avoir remarqué ce qui s'est passé. Elle peut enfin lui indiquer le chemin vers la chancellerie. Sur les réseaux sociaux, certains ont cru à une fausse vidéo accélérée, tant les tremblements étaient rapides. Des médias allemands ont même dû se justifier jusqu'à ce qu'Angela Merkel ne le fasse elle-même. Depuis que j'ai bu au moins 3 verres d'eau, ce dont apparemment j'avais besoin, dit-elle tout sourire face à la presse. À présent, je me sens très bien. La déshydratation, comme explication officielle, n'a pas forcément convaincu, d'autant que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. En 2014, elle avait interrompu une interview à la télévision pour les mêmes raisons. En France comme en Allemagne, la transparence est plus grande que par le passé, avec la publication régulière de bulletins de santé des dirigeants. Mais dans les deux pays, la méfiance est grande. 2 chanceliers ont déjà caché leurs problèmes de santé. L'un, une dépression. Un autre, un trouble de la prostate. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Il est 7h37, c'est un triste record, Sébastien. Il y a eu plus de 70 millions de réfugiés et déplacés dans le monde l'an dernier.
Des chiffres révélés hier par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 70 millions de déracinés, c'est tout simplement du jamais vu. Le HCR qui tacle au passage la politique migratoire européenne. L'Europe où chaque secours de migrants en Méditerranée provoque à chaque fois une tempête médiatique, une tempête diplomatique. Et Jérémy Lange était à la conférence de presse du haut commissaire aux réfugiés à Genève.
Nous avons des ministres qui passent des heures au téléphone à négocier la répartition des gens. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas faire des accords qui soient plus prévisibles.
Le patron du HCR, Filippo Grandi, n'est pas tendre avec les dirigeants européens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des réfugiés dans le monde le sont dans un pays voisin du leur. La Turquie, le Pakistan, l'Ouganda, le Soudan. Exception faite de l'Allemagne, 5e pays d'accueil. L'Europe n'est donc pas en première ligne. D'où l'incompréhension du haut commissaire devant l'absence d'accord sur la répartition des migrants.
Les gouvernements sont terrifiés de prendre ces engagements parce qu'ils ont peur que ça soit utilisés dans leur pays à des fins électoraux. Tout le monde le sait. Donc l'appel que je fais maintenant, dans une situation où on a derrière nous les élections européennes, on a des chiffres franchement gérables d'arriver en Europe, c'est le moment finalement d'affronter cette question.
Les pays développés n'accueillent en fait que 16% des réfugiés dans le monde. C'est ce qui fait dire au patron du HCR que s'il y a vraiment une crise des réfugiés, il ne faut pas la chercher en Europe ou aux États-Unis, mais dans les pays du Sud et les pays pauvres. À Genève, Jérémy Lange, France Inter.
L'accès aux soins et à la prévention reste difficile pour les toxicomanes en France. Les consommateurs de drogue ont toujours du mal à se procurer du matériel stérilisé pour limiter les risques de contamination, selon un rapport publié par ACT UP. L'association de lutte contre le sida a mené une enquête de testing dans les pharmacies parisiennes qui sont encore nombreuses à refuser de vendre des kits de prévention. Le reportage de Yann Gallic.
360 pharmacies parisiennes ont été testées. Résultat, près de la moitié d'entre elles ne vendent pas de Steribox, ce kit d'injection stérilisé avec des seringues et des compresses antiseptiques. Pour les toxicomanes, c'est pourtant l'un des meilleurs moyens de limiter les risques de transmission du sida ou des hépatites, surtout en Île-de-France où les contaminations sont plus nombreuses que dans le reste du pays. Robin Drevet est chargé de la prévention chez ACT UP Paris.
L'Île-de-France est une des premières régions en termes de foyers infectieux, sur les questions VIH et sur les questions hépatite C, qui est quand même aujourd'hui globalement la pathologie la plus répandue chez les personnes usagères de produits. On ne peut pas développer une politique de santé publique de réduction des risques ambitieuse sans y mettre les moyens financiers et humains derrière. Il y a un vrai manque et un vrai besoin de formation du pharmacien, ça c'est une évidence, et la plupart en fait sont peut-être pas forcément au courant des dispositifs existants, donc du coup se sentent pas forcément toujours à l'aise avec ces publics-là, ou alors ont leur propre image de ces publics comme étant des personnes potentiellement compliquées à accompagner dans les démarches.
Act Up dénonce aussi la stigmatisation des toxicomanes. Selon l'association, en France, la lutte contre la drogue repose essentiellement sur la répression, une vision trop sécuritaire qui empêche la mise en place d'une véritable politique de santé publique.
Yann Gallic, un petit rectificatif dans l'affaire de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Il s'agit bien de Claude Guéant, l'ex-secrétaire général à l'Élysée, qui a été interrogé hier par la police.
Allez, on termine, Sébastien, avec cette vente aux gens, aux enchères qui devrait faire du bruit aujourd'hui.
Un revolver rouillé, celui avec lequel Van Gogh se serait suicidé en 1890. Il sera vendu à l'hôtel Drouot aujourd'hui. Il était retrouvé dans les années 60 dans le champ, même où le peintre s'est mortellement blessé. Jacqueline Pétrose.
Il est rouillé, un peu tordu, pas très grand. Ce revolver, Vincent l'a sans doute trouvé dans le tiroir de l'auberge d'Arthur Ravoux, où il occupe la chambre numéro 5 depuis le mois de mai 1890. Tous les indices concordent. Grégoire Vérès, responsable de la vente.
Il s'agit donc du revolver Le Faucheux à broche, très très commun à l'époque. Il a été retrouvé dans le champ dans lequel il a fait cette tentative de suicide. L'état prouve en fait qu'elle est restée dans le sol entre 50 et 80 ans. La position de la détente, donc en position ouverte, on peut supposer que juste avant de tomber dans le sol, il y a un coup qui est parti.
Quelques mois plus tôt, Vincent sortait de l'asile où il avait été interné en Provence. Ici, le docteur Gachet veille sur lui. Pourtant, le 27 juillet, au bord d'un champ, Van Gogh se tire dessus. Grégoire Vérès.
D'après les témoignages qu'on a, il se tire donc une balle dans la poitrine qui vient ricocher sur une côte et descend en fait, vient se loger dans l'Aisne. Il s'évanouit. On ne sait pas exactement combien de temps il reste dans le champ. Et il reprend connaissance à la nuit tombée, se relève et puis marche en titubant jusqu'à l'auberge où le docteur Gachet accourt pour constater la blessure.
Vincent meurt deux jours plus tard. Ce revolver, objet émouvant et un peu sinistre, est à la fois le symbole du mystère qui entoure encore la mort de Van Gogh, mais aussi de celui de la vie d'un artiste incompris et déchiré.
Voilà, un revolver rouillé estimé entre 40 et 60 000 euros.
Merci Sébastien Legénie.